France Musique. Les grands entretiens. Yvan Amar. France Musique.
Je m'appelle Bojan Zulfikar Pašić. Je suis né le 2 février 1968 à Belgrade, en Yougoslavie, et je suis musicien.
Vous voilà donc à Paris à la fin des années 80, une période où beaucoup de petits clubs fleurissent dans cette ville et c'est là que se font les rencontres musicales. Et vous vous liez d'amitié avec le guitariste Noël Achoté.
Avec Noël, on a commencé à jouer en duo partout où on pouvait à Paris, vraiment dans les
piano-guitare,
bars, piano-guitare.
Ouais.
Dans tous les trous, il y avait un piano où on n'était pas payé, où on dépensait plus pour rentrer chez soi en plein milieu de la nuit que ce qu'on gagnait, etc., etc. Mais une très belle expérience, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître Paris et à rencontrer des gens, etc., etc.
Alors, c'est à cette même époque, Bojan, que vous rencontrez un jeune saxophoniste qui est Julien Loureau.
On s'est retrouvé à jouer la première fois ensemble au Sunside lors d'un jam session et on a joué Peacocks de Jimmy Rolls. Et je crois un blues ou quelque chose comme ça. Donc voilà, quand même, le répertoire plutôt
assez sophistiqué. Peacocks, ah, c'est, oui, il n'y a pas beaucoup de notes, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent.
Exact. Et donc voilà, tout de suite, on s'est retrouvés. Franchement, c'est une amitié. Et avec Julien, on joue toujours ensemble.
Et vous avez monté vos premiers groupes à peu près à cette époque?
En gros, j'étais contacté par Marc Buronfos, qui m'a dit que le quartet qu'il avait avec Julien, François et Pierre-Christophe au piano, qu'ils étaient élus pour participer au concours de la Défense.
Est-ce
mais
que
Pierre
c'est...
n'était pas libre.
Oui.
Et donc Marc m'a appelé pour remplacer Pierre-Christophe. Ce que j'ai fait au pied levé.
Donc c'était un répertoire que vous connaissiez très peu, puisque vous remplaciez au pied levé Pierre-Christophe.
Sauf que le répertoire, c'était un morceau de Larry Schneider que je connaissais sur le disque Affinity de Bill Evans. Un morceau de Pat Metheny, mais l'un de ses premiers morceaux, donc pas très connu. Chouette. Un morceau de Jamaladin Takuma. Et c'est ça qui me plaisait. Parce qu'il y avait plein de trucs ouverts. Et c'est franchement à ce moment-là que je me rappelle que cet enregistrement, que c'est la première fois que je me suis lancé dans un long intro. Donc les choses que je faisais pas d'habitude, ils m'ont laissé faire un solo sans accompagnement au milieu d'un morceau, etc. Donc voilà, on a déjà commencé un peu à casser les codes issus de bebop. Donc c'est moi qui ai eu le premier prix de soliste. Dans le prix, il avait aussi un concert à la maison de la Radio France. Et je me suis dit, mais avec qui je veux le faire? Pas avec les mêmes. Sauf que ça va s'appeler Boy Z Quartet maintenant.
Thank you.
passait beaucoup de temps toujours avec Noël et maintenant avec Julien, et on a commencé à parler d'autres musiques qui nous intéressent. Et c'est surtout Noël et Julien qui se sont lancés à faire un groupe où ils joueraient tout ce qu'ils ne jouent pas dans les groupes de jazz. J'ai été appelé assez rapidement à me joindre à eux. Julien, je crois, il a fait venir Eric Borelva, donc le batteur.
Oui.
Eric a amené Christophe Manck, le bassiste, qui lui-même a amené Dom Farkas, qui était le chanteur. Et ce groupe-là, effectivement, s'est appelé Trash Corporation parce que trash, pas à cause de courants de musique trash, mais parce que c'est un peu toutes les poubelles des choses qu'on ne pouvait pas utiliser ailleurs, mais on a commencé à checker là-dedans qu'est-ce qu'il y a. Donc la corporation de trash, voilà.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de disques de Trash Corporation.
Non, ce groupe, il est resté underground. Dix ans après le fait, donc on a existé pendant 3 ans. On a commencé à jouer un peu partout, mais sur les grandes scènes, parce que c'était un groupe plus électrique, donc plus amplifié, etc. On a eu une proposition d'enregistrement d'album, mais où on s'est partagé, parce que la moitié du groupe voulait signer avec une majeure. Et pour moi et ceux qui ont été plus jazz, bah faire un disque, vu que nous, on pouvait le faire en 3 heures, donc on voulait pas attendre une majeure, on rêvait pas du tout à se fermer quelque part pendant un mois pour faire un disque. Un peu comme les groupes de rock faisaient. Et le groupe a arrêté. C'était très stupide. J'étais plutôt orienté vers le jazz acoustique, le bebop et tout ça. Et c'est en rencontrant à nouveau donc Julien et Noël que toutes mes anciennes amours sont devenues utilisables. Parce que, tout simplement, François Merville, le batteur, et Julien, ils étaient plus intéressés. Quand j'ai commencé un peu à jouer pour faire les blagues, je jouais quelques airs traditionnels, ils étaient attends, c'est quoi, comment tu fais ça, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à aller dans ces directions-là.
Yann, vous êtes quand même lié à un certain nombre de musiciens français qui ont été importants pour vous. On peut peut-être commencer par Henri Texier, le bassiste. Vous avez fait partie, me semble-t-il, de l'Azur Quartet et ensuite de l'Azur Quintet avec Henri. Comment s'est faite la rencontre ?
C'est une histoire qui a démarré au Duc des Lombards, en fait. Il avait une période de presque 2 ans où j'étais le pianiste maison, ça veut dire celui qui animait les lundis et mardis soirs. Et donc, lors de l'un de ces soirs où je jouais, il y avait Aldo Romano qui était là. Henri et Aldo, comme ça fait une éternité qu'ils se connaissent. Donc, il a appelé Henri le lendemain, et puis, ah, qu'est-ce que t'as fait hier? Ah, j'étais dans le... Alors, j'ai entendu un pianiste, pas mal lui et tout, etc. Donc, c'est Aldo qui a dit Henri ça. Henri s'est renseigné, puis, quand il a parlé à son fils, donc Sébastien a dit, bah, je le connais. Parce qu'à l'époque, Seb, il était là quand on a enregistré à l'IRCAM. Donc, il était avec nous, il était assis dans un coin et puis il nous a écouté. Et il a dit à Henri, bah, d'ailleurs, j'ai la cassette de ce qu'ils ont fait. Et puis, suite à ça, il m'a appelé, c'était en 91. Il m'a appelé, je m'en rappelle, un 23 mai pour me demander si je suis libre le 22 mai. Je lui ai dit, je comprends pas bien. Henri, tu parles de 22, aujourd'hui on est 23. Il m'a dit oui, l'année prochaine. Et donc voilà, c'était ça la plus grosse différence. Donc avec lui, les concerts ils ont été planifiés un an en avance, contrairement au club qui s'est décidé parfois le jour même, t'es libre, viens jouer. Et c'est comme ça qu'il est venu chez moi, puis on a répété, et il m'a dit tout de suite d'arrêter à taper le pied. Parce qu'à l'époque, comme un vrai bebopper, je tapais le pied sur 2 et 4. Au point que ça l'ennuyait, et il m'a dit, donc, tu trouves le moyen d'arrêter le pied, j'en ai pas besoin. Et on a sillonné franchement la planète un peu partout avec Henri. J'ai eu quand même pas mal de chance. Pour Paris, j'ai eu Noël Achoté, qui est un vrai parigot, qui connaissait tout le monde. Et pour le reste de la France, j'ai eu Henri Texier qui m'a expliqué la France. Et à l'époque, on se déplaçait dans son minibus, qu'on appelait Texair. Et c'est Henri qui conduisait tout le temps. Il adorait conduire. C'était avec Glenn Ferris et Tony Rabeson. Eux, ils se mettaient tout de suite derrière parce qu'ils connaissaient le côté bavard d'Henri. Et ils mettaient les casques, etc. Et puis moi, je me retrouve en permanence à côté d'Henri, etc. Et donc, beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences, beaucoup de temps passé ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte, l'une des premières leçons qui m'a été dite par Boško Petrović, le premier soir où il nous a fait ouvrir la bouteille de vin en 84, je me rappelle qu'il nous a dit « Faites gaffe avec qui vous allez monter les groupes. Il est aussi important que ce soit un bon musicien, mais pas un connard, quoi. Enfin, parce qu'effectivement, l'heure et demie que vous passez sur scène passe très vite, mais vous avez 23 heures à passer avec un idiot, donc c'est un peu difficile. » De ce côté-là, j'ai eu quand même pas mal de chance, parce que des gens que j'ai eu la chance de croiser sur ma route et qui m'ont beaucoup donné, c'était des gens généreux et des gens de qualité. Si, c'est même très réducteur de dire ça comme ça, mais en tout cas des gens qui avaient envie de donner. Et avec Henri, ça a duré 12 ans. Et ce groupe-là, il a eu énormément de succès, franchement. Suite à An Indian's Week, l'album qu'on a enregistré, c'était parmi des rares groupes où l'agent ne devait presque pas chercher les concerts parce que le téléphone sonnait tout le temps, quoi. Donc c'était franchement un grand succès, quoi.
Entretien de Boy & Z, France Musique.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup être dans la position de sideman. J'essaie de m'approprier pas que la composition faite par quelqu'un d'autre, mais aussi ses propres raisons pour lesquelles il a composé et à quoi ça se réfère. J'aime la travailler comme si c'est la mienne, c'est-à-dire je les transpose dans tous les 12 tons.
Ah oui.
Et c'est ce que je fais avec mes morceaux parce que je veux les connaître vraiment, je veux les assimiler.
Est-ce une bonne façon d'assimiler
pour
les
moi,
morceaux
oui. Pour moi, oui.
Parce
et d'ailleurs,
que ça ne fait pas appel aux mêmes automatismes.
Exact. C'est-à-dire que vous.
Ce n'est pas les mêmes accords qui viennent sous les doigts.
Exact. Pendant que vous travaillez un morceau dans les autres tonalités, ouais. Donc, en passant uniquement par votre tête et la réflexion, et quand vous arrivez à revenir sur la tonalité d'origine après 12 tonalités de changer, la compréhension que vous avez des morceaux est passée de 50 à 500. Donc vous êtes beaucoup plus libre. Et vous ne devez pas du tout regarder la partition à partir de ce moment-là. Ça me libère toute mon attention vers ce qui se passe sur scène. Donc vers l'imprévu, vers le prévu, vers les signes visuels, etc., etc. Donc comme ça, je ne dois pas dépendre du tout du papier. Donc avec Henri, oui, je pense que la plupart des morceaux que j'ai joués avec lui... Pendant les 12 années, je crois que je me rappelle de tous les morceaux, toujours.
Est-ce que vous avez des tonalités de prédilection ?
Oui, c'est une très bonne question. Oui, je me suis rendu compte, en fait, le morceau d'ailleurs qui figure sur An Indian's Week, qui figure également sur mon premier album avec le quartet, c'est Mashallah, qui est écrit en Ré bémol mineur, ou Do dièse mineur, comme on veut. Et je me suis rendu compte que j'en ai écrit quand même pas mal. Et curieusement, après, j'ai découvert que...
Ce qui n'est pas une tonalité facile,
non.
A priori.
Non, c'est pas une tonalité anatomique déjà pour la main d'un pianiste.
Ça fait très beethovenien en même temps.
Exactement. Parce que... je trouvais que ça, quelque chose, une sonorité ou une émotion qui est tout à fait spécifique. Et très vite après ça, je me suis rendu compte que Duke Ellington et Billy Strayhorn, eux, ils avaient leur tonalité de fétiche qui était ré bémol majeur.
Il y a eu Texier, c'est sûr, et l'autre grand nom qui vient à l'esprit, c'est Michel Portal, que vous avez rencontré peut-être par l'entremise d'Henri Texier.
Lors de l'enregistrement de l'album donc An Indian's Week, qui s'est passé en 92, je pense, Henri a invité Louis Clavis et Michel Portal. Et c'était mes débuts de Michel, c'est bien de le dire comme ça. Assez curieusement, il m'a invité 6 mois après, jouer avec son groupe, avec François Moutin. Et donc là, on s'est retrouvés donc, avec Richard Galliano, Tony Rabesson, François Moutin et moi-même. Ils ne peuvent pas être plus différents que ça, en fait, dans la manière dont ils approchent et travaillent la musique, Henri et Michel. Henri, il est très, très méticuleux, très précis au niveau de ce qu'il veut. Il écrit les partitions avec beaucoup de précision, etc. Michel, il jette les trucs comme ça, et puis il trouve un truc qui est injouable. Puis c'est pas du tout ce qu'il veut, comment il veut, qu'est-ce qu'il veut entendre comme accord, etc. Enfin bref, il laisse énormément de liberté et beaucoup d'attentes.
C'est-à-dire qu'une partition d'Henri Texier et une partition de Michel Portal, ça se ressemble pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a sur l'une, qu'est-ce qu'il y a sur l'autre?
Sur les partitions d'Henri, il y a tout. Il y a la ligne de basse, il y a les accords, il y a écrit la forme d'une manière très claire, il y a même écrit combien de solos pour la version idéale. Que bien évidemment, dès qu'on montait sur scène, on respectait plus. Et c'est ça qui lui plaisait aussi. Avec Michel, c'est jamais fini, les partitions. Il n'y a ni la forme, donc il barre les choses, mais il reste là, donc il donne des partitions sur lesquelles il y a beaucoup trop d'informations. Donc c'est à toi de virer, de trouver l'essentiel. Il m'est arrivé avec Michel très souvent, qui me sort les morceaux qui sont tellement touffus, des notes tellement rapides et tellement pas écrites pour le doigté de pianiste, que je me retrouve au lieu d'aller manger, je à l'époque, donc ne le connaissant pas, je l'ai laissé partir manger, puis pendant le dîner, moi, j'essayais de travailler ce morceau, vu qu'il voulait qu'on le joue le soir. Puis donc, arrive le moment, « Ah non, on va pas le jouer !» Et donc, ça m'a pris quelques concerts, effectivement, de me dire qu'en fait, il faut pas travailler ces morceaux.
Qui a marqué pas mal cette période pour vous, c'est le guitariste Noël Lee.
Nguyen, je l'ai déjà vu avec Michel Portal, donc je connaissais la musique de Nguyen, et puis on s'est un peu côtoyé aussi via, je crois, les frères Moutin, donc je crois que c'est en fin 96-97. Je reçois l'appel de Nguyen qui me propose de faire partie de son nouveau projet qu'il a fait avec Haïm Ziad.
Et ça, c'était Maghreb and Friends.
Ça, c'est devenu Maghreb and Friends. Donc, et il m'a envoyé donc des partitions. Et je me suis retrouvé effectivement à découvrir la musique, mais que je n'arrivais pas à comprendre du tout. Parce que il y avait un problème, c'est que Nguyen m'a écrit les partitions en 3-4, donc en 3 temps. Or, à la réalité, c'est en 4 temps. Et donc, c'était une énorme expérience musicale parce que j'ai appris énormément sur les rythmes issus de continents africains. Avec ce groupe-là, on a beaucoup joué. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis lié d'amitié avec Haïm Ziad. Et après ce groupe-là, on a continué à jouer ensemble pendant plus de 10 ans après ça.
Et de temps en temps
donner naissance, ouais, notamment à cet album-là en trio avec Julien et Karim, Bozilo. À la fin des années 90, il y a une chose qui est un peu revenue comme évidence, c'est que je n'ai jamais joué en trio. Et pour un pianiste, c'est souvent, quand on commence les albums, on commence par un album en trio. Mais à ce moment-là, j'ai commencé un peu à me profiler, à imaginer la musique qui serait jouée que au piano. Il a eu des gros changements chez La Belle Bleue. Michel Aurier, il est parti. La direction a été changée. Pierre Valfis est venu. Et juste au moment où j'étais en train d'enregistrer Soul Obsession. Et il m'a sorti une phrase qui a fait en sorte que je lui ai pas du tout confié concernant Soul Obsession. Parce qu'on s'est vu la première fois. Il m'a dit, bon, là, tu vas faire ton petit disque en solo. Mais bon, sur un projet un peu plus grand, etc. Donc, le fait qu'il m'a dit ce petit disque en solo, pour moi, c'était le plus gros chantier mental que j'ai jamais fait. Parce qu'effectivement, justement, le fait qu'il n'y avait pas d'autres musiciens, c'était 10 fois plus difficile pour moi. Donc, c'était tout sauf un petit disque. Le premier album en solo, il a eu beaucoup de succès. Donc, suite à cet intérêt-là, Pierre m'a demandé si je serais partant de faire un disque en trio, mais avec des musiciens qu'on choisirait ensemble. Donc moi, je venais de rencontrer Scott Colley, je l'ai écouté avec...
Donc le contrebassiste.
Contrebassiste américain. J'ai adoré son jeu tout de suite, je l'ai entendu à Vienne, à Porgy & Bess. Donc j'ai proposé Scott Colley et Pierre Valfis m'a dit « Est-ce que tu connais Nashit Waits ?» Sur quoi je lui ai dit non. Il m'a envoyé un album de Andrew Hill. J'ai mis l'album et dans les 10 premières secondes, je me suis dit qu'il est très, très, très intéressant. Et c'est comme ça, donc, qu'on s'est retrouvé à New York, on a fait cet enregistrement un peu à l'ancienne, dans le sens où on s'est rencontrés la veille du début de l'enregistrement. Leur engagement, la manière dont ils ont approché la musique que je leur ai proposée, est quelque chose qui m'a marqué beaucoup parce que ils ont cette routine, les musiciens qui vivent à New York, parce qu'ils passent dans une journée, parfois ils font 4 à 5 répétitions. Et donc, quelle que soit la chose que tu lui mets devant, et moi j'avais un peu des doutes sur mes compositions, donc il y a une composition où j'ai amené 2 accords, et la mélodie que je leur joue, et puis j'étais presque désolé en mettant ça, « You know guys, il n'y a que 2 accords, mais ne vous inquiétez pas, all right, yeah, on y va, on le fait quoi ». Donc automatiquement, ils avaient cet engagement, quelle que soit la chose. Même s'il n'y a rien, bah, ils vont se jeter et puis on va faire la musique. Donc on a fait cet album qui a pas mal marqué aussi les gens du métier. C'est un épisode que j'adore de ma vie.
Cette étape, nous dit Boyan Z, qui est à New York et qui s'américanise avec Scott Colley à la contrebasse, Najit Waitz à la batterie, mais ça ne l'empêche pas de continuer à explorer ses racines balkaniques et à innover en enveloppant le swing de ce parfum si particulier et de ses harmonies, de ses rythmiques impairs, parfois compliquées. Et on verra demain comment toute cette musique nouvelle a eu des petits. Vous pouvez réécouter cet entretien sur francemusique.fr. Boyan Z, Gilles Blanchard, Arthur Gerbeau, Flora Cernadel, Yvan Amar.
À réécouter sur francemusique.fr.